20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Perdues ou englouties, les villes meurent aussi. Abandonnée durant plus de 2 millénaires, l'une d'elles se cache aujourd'hui sous une épaisse forêt. L'immense colline boisée qui l'abrite s'avère pourtant un haut lieu de notre histoire nationale, creuset et tombeau de l'unité celtique. Ibrac, ses remparts, ses maisons sont avant tout l'objet d'un vaste programme de recherche européen comme de fouilles souvent estivales. Autant d'occasions de se rendre sur le terrain pour marcher dans les pas de Vercingétorix ou de César, exhumer le passé d'un peuple, les Éduins, libres et indépendants ou tout au contraire déjà romanisés. C'est donc sur le terrain, dans les bois, que j'ai retrouvé Vincent Guichard, directeur de Bibract, et Pierre Nouvel, professeur d'archéologie classique et de la Gaule romaine à l'université de Bourgogne. Vincent Guichard, où sommes-nous ? Dans les bois, ou du moins dans ce qui est aujourd'hui les bois ?
Voilà, donc une belle futaie de hêtres. Donc à l'extrémité sud de l'oppidum de Bibract, un endroit qu'on appelle précisément les grandes portes. Vous voyez, la toponymie moderne montre que les habitants des lieux ont compris très très tôt qu'ils avaient affaire à une fortification urbaine, bien qu'a priori ce soit pas absolument évident. Donc on est à un endroit qui est important pour nous et qui a en fait pas été touché par les fouilles qui sont développées sur le mont Beuvray depuis le milieu du 19e siècle. Donc c'est un terrain qui est encore relativement vierge. Pour l'instant, on s'est limité à une approche externe. Donc essayer de comprendre la microtopographie des lieux qui est très très évocatrice. En fait, ici, on lit parfaitement bien dans la topographie, si on a un peu le regard éduqué, deux portes successives de l'oppidum de Bibract.
Bibract, c'est combien de kilomètres de rempart ?
Alors le rempart sur lequel on est, qui est le rempart dit supérieur ou dit intérieur, fait 5 km de 100 hein, et en sert une surface d'à peu près 135 hectares. Donc ça fait une distance entre la principale porte nord, qui est la porte du Rebout, et la principale porte sud où on est, d'un peu plus d'un kilomètre 500. Hein, et un peu en dessous de nous, donc à 50 mètres en contrebas, on a donc une porte du rempart dit extérieur qui lui fait 7 km de longueur et en serrait une surface d'à peu près 200 hectares.
En tout cas, l'ouverture de portes de ville, c'est toujours des moments extrêmement importants. Vous aviez, il y a bien sûr très longtemps déjà, ouvert une porte côté nord ?
Quand un archéologue appréhende un site fortifié, il commence toujours par ouvrir la porte. Parce que c'est un lieu qui va pouvoir résumer toute la dynamique d'occupation du site. Parce que vers les portes, évidemment, il y a une activité qui est importante. Donc on est susceptible de trouver beaucoup d'objets et des objets en relation avec ce qui caractérise la ville fortifiée, qui est le rempart. Hein. Donc Jacques-Gabriel Bulliot, qui nous a précédé, c'est ce qu'il a fait en 1867. Pour la première fois, en caractérisant sur le terrain le Murus Gallicus décrit par César. Quand on a repris les fouilles dans les années 80 à Bibract, c'est ce que l'on a fait en allant ouvrir la porte du Rebout pour s'apercevoir que la porte du Rebout avait une histoire complexe en un siècle avec trois reconstructions successives. Donc naturellement, c'est ce que l'on fait ici sur cette partie sud avec différents enjeux plus précis. C'est celui d'avoir une meilleure datation du premier rempart. Donc là, on a une datation de l'abandon, hein. La construction du rempart supérieur, du petit rempart de 5 km, est assez bien datée du tout début du 1er siècle de notre ère. En revanche, la construction du rempart qui l'a précédé, on n'a pas d'éléments directs, on n'a pas d'objets qui sont liés aux couches de construction, donc on espère, à l'emplacement de la porte, en avoir. Permettre aussi de caractériser une porte primitive de Bibract dans sa géométrie et dans son architecture. Alors les autres questions connexes, c'est de mieux comprendre également le cheminement de la voie qui traversait cette porte, parce qu'on a un peu un problème. Hein. On voit parfaitement les deux bastions qui encadraient la porte, et donc ils donnent l'axe de la voie, mais quand on remonte vers l'intérieur de l'oppidum, on la perd très vite. Et on n'arrive pas à la connecter à des voies urbaines qu'on en a retrouvées à 300 mètres en amont. Donc il y a cet enjeu-là. Et un petit enjeu particulier qui correspond exactement à l'endroit où on est. On voit très très bien qu'il y a eu la porte du deuxième rempart, à un moment donné, a été condamnée et on voit que la porte est vraiment obstruée. Donc on veut en savoir un petit peu plus sur d'abord la date de l'obstruction de cette porte, qui est probablement un événement tardif dans l'histoire de Bibracte. On a au moins une deuxième porte qui montre la même chose. Peut-être des événements, des troubles qui ont affecté la cité éduenne au tout début de notre ère.
On pourrait être dans les années 21 de notre ère, moment de l'abandon de la ville au profit donc d'Autun.
Alors, ce qu'on a bien appréhendé par les fouilles ces dernières années, c'est qu'il y a une chute d'activité à Bibracte à partir des années 15-10 avant Jésus-Christ, qui sont la date présumée de la fondation d'Autun pour des motifs historiques et maintenant un peu archéologiques. Néanmoins, il y a une dernière étape d'occupation et même de construction dans cette partie moyenne du règne d'Auguste, donc avec des bâtiments construits vers 15-10 avant Jésus-Christ, qui vont fonctionner quelques décennies, et les derniers témoins d'objets mobiliers ou de la fréquentation de ces bâtiments datent effectivement de la décennie entre 10 et 30 de notre ère, pour pas être trop précis. Et de fait, les sources historiques nous indiquent qu'en 21, il y a une révolte de l'aristocratie éduenne, pour une raison assez banale à l'époque, c'est qu'on paye trop d'impôts. Donc avec une répression assez forte du pouvoir romain, donc c'est l'historien Tacite qui nous en parle, ça pourrait coller. Donc voilà, ça pourrait nous permettre de préciser les circonstances de l'abandon définitif de ces très grandes maisons urbaines à la romaine que l'on trouve au centre de Bibracte et qui continuent à être entretenues alors que le pouvoir a été formellement transféré à Autun.
Vous aviez aussi trouvé, il y a quelques années, une occupation d'un camp romain aux portes de Bibracte. Est-ce que l'on peut placer ce camp avec ce phénomène ? Cet événement.
On n'a pas de certitude d'installation de camp romain. Comme sur beaucoup d'oppida, on s'aperçoit qu'il y a un bruit de fond de fréquentation militaire. Alors, soit des armes rapportées par des habitants de Bibracte, soit des objets un peu plus caractéristiques comme des traits de catapultes, là qu'on rapporte pas dans ses bagages a priori quand on rentre de bataille, et puis des indices alors un peu ambigus, notamment à l'emplacement d'une nécropole qui est au nord du site, donc là où est le musée aujourd'hui, avec des traces donc de petites digues, de petits remparts qui bloquent les voies d'accès, donc à quelques centaines de mètres en amont des portes de l'oppidum, et quelques petits fours culinaires, qui maintenant sont bien caractérisés par d'autres découvertes en contexte militaire romain. En fait, c'est les petits fours qui étaient installés dans les cantonnements militaires romains. On en connaît de l'époque de la conquête césarienne. Et à la fin, tout le premier siècle en Jésus-Christ, on a quand même pas mal d'exemples. Ça a l'air assez caractéristique. Donc, on a envie d'imaginer qu'à un moment donné, à une époque assez tardive de l'utilisation de Bibracte, effectivement, il y a eu des cantonnements de militaires. Donc, tout ça pourrait faire quelque chose de cohérent, mais pour l'instant, je dirais, c'est une extrapolation assez forte de différentes bribes d'informations, donc on aimerait essayer d'argumenter un petit peu plus.
Les fouilles de cette porte sud seraient justement une des clés pour vous. C'est pour ça que, probablement, l'année prochaine, vous ouvrirez ces portes.
On n'aurait pas ouvert la fouille si c'était la seule question, mais effectivement, ce chantier nous permettrait d'avancer un petit peu plus sur ce dossier-là. Puis imaginez que si la porte a été bloquée date tardive, ça veut dire qu'on a fossilisé la porte, et qu'on risque d'avoir une fantastique élévation conservée des parements du rempart à cet endroit-là. Donc c'est aussi l'espérance d'avoir une architecture particulièrement bien conservée.
Pierre Nouvel, nous avons quitté les pentes du Beuvray, le rempart, pour nous retrouver au centre de la cité, on va dire proto-historique et antique. Nous sommes ici sur une sorte de vaste esplanade.
Oui, c'est la plus grande esplanade de Bibracte, environ une dizaine d'hectares. Et on a développé sur ce terrain-là des fouilles depuis 2012 qui ont dégagé un très grand complexe monumental.
Il se présente comment ce bâtiment ?
Alors, dans son état initial, qui est le plus intéressant, il a la forme d'un vaste préau, d'un quadriportique d'environ 45 mètres de côté, chaque branche en 8 mètres de large, et une grande cour au milieu, pavée, en caillouti. On sait que cette construction était couverte par un toit à deux pans, et ouverte essentiellement à l'est.
Vous avez trouvé plusieurs états de construction, au moins 4 états de construction.
Oui, 4 états de construction qui s'échelonnent sur une période très très courte entre la guerre des Gaules et l'abandon de Bibracte autour de 5 avant Jésus-Christ. Ce qui est intéressant, c'est le premier état qui démontre une volonté collective d'aménager cet espace urbain, puisqu'on a dû entailler la colline qui était en pente pour faire ce très vaste espace. On l'a assis sur un système qu'on appelle de murus gallicus, c'est-à-dire de système de soutènement qui associe la pierre et le bois, que l'on connaît jusque-là essentiellement dans des fortifications, et on l'a ici dans un aménagement de terrassement pour ce premier état. Donc on voit qu'il y a un grand investissement collectif pour installer ce grand monument qu'on suppose public.
Comment doit-on se l'imaginer ?
Alors évidemment, à chaque fois on parle d'imagination, ce que l'on peut affirmer c'est que c'est un monument qui était de grande ampleur. Puisque les poteaux, environ 100 poteaux pour le premier état, c'est des poteaux qui font souvent 50-60 cm de côté, c'est un monument qui certainement avait une grande hauteur. Il faut imaginer qu'il n'y avait pas de forêt comme aujourd'hui. Donc on voyait ce monument depuis l'entrée de la porte du Rebout, à environ 4 ou 500 mètres d'ici. Et donc il était véritablement positionné en hauteur, avec ces deux étages probablement comme une espèce d'espace fermé, réservé, accessible seulement par une porte assez étroite.
C'est une architecture gauloise ou une architecture romaine ?
Alors, une véritable question, parce que quand j'ai utilisé le terme de quadriportique tout à l'heure, c'est un terme latin, c'est volontairement qu'on s'amuse à mélanger un petit peu les deux éléments, puisque ici, clairement, on mélange des traditions architecturales européenne, de l'Europe moyenne, celtique pour utiliser d'autres mots, avec des influences déjà qui viennent du monde méditerranéen. Alors le plan tel qu'on le connaît ici, ce cadre portique, on le connaît à deux ou trois autres emplacements, on le connaît à Coran par exemple, on le connaît aussi en Bretagne, on sait que c'est un monument en terre et bois qui a une origine qu'on pourrait qualifier de celtique. Mais très rapidement, ce monument-là va être réaménagé, on va utiliser de la pierre dès le troisième état, de la tuile aussi, donc on va finalement lui donner une apparence romaine assez rapidement. Et on voit que c'est quelque chose qui importe aux gens qui aménagent cet espace de lui donner une apparence romaine, même si à l'origine, c'est un bâtiment clairement de tradition gauloise.
Donc la romanisation passe aussi par l'architecture.
Tout à fait. Et alors, ce qui est vraiment étonnant, passionnant, c'est qu'on s'aperçoit qu'on est ici face à un bâtiment qu'on a choisi de construire à l'époque de la conquête ou postérieurement à la conquête, selon un plan gaulois. Pourquoi ? Sachant qu'on sait que par ailleurs, on va importer par exemple des domus, des maisons d'habitat pour l'aristocratie gauloise, qui va aller chercher ailleurs un monument, un bâtiment privé, qu'elle n'avait pas jusqu'à présent dans les capitales de cité. Or ici, on a choisi à la même période de construire un monument de tradition gauloise. Ça signifie à mon point de vue que ce bâtiment, on l'a édifié parce qu'il existait déjà précédemment, sa fonction était déjà présente dans la ville, et donc on n'avait pas besoin d'aller chercher ailleurs quelque chose qu'on avait déjà inventé, contrairement à la domus.
J'ai vu au musée une sorte de grand poteau extrêmement sculpté, superbe, qui a été d'ailleurs trouvé dans une fontaine, visiblement, sur le mont Beuvray à Bibracte. On peut s'imaginer donc des poteaux comme ça, parant un tel édifice ?
C'est une bonne image parce que, effectivement, c'est le poteau dont on parle ici. Il a été retrouvé dans une fontaine, il est en réutilisation, donc il a eu plusieurs vies assez longues. Et on sait ici que les poteaux de ce bâtiment, tout du moins du premier, du deuxième ou du troisième état, puisqu'après c'est en pierre, eh bien, ils étaient équarris. Ils n'étaient pas des bêtements avec l'écorce, c'était des poteaux qui étaient travaillés. Donc on peut imaginer que ces poteaux non seulement étaient travaillés et équarris, mais en plus pouvaient être sculptés. On n'a pas de preuves qui le démontrent, ni de preuves qui l'infirment.
À l'intérieur, comment circulait-on dans ce bâtiment ?
Alors, on a la certitude qu'on y circulait beaucoup, puisque le sol qui était en caillouti est extrêmement usé, il est très damé, et sur ces sols, on va trouver beaucoup de clous de chaussures, par exemple, beaucoup de petites monnaies. Donc, on a vraiment parcouru ces sols, on a des traces d'usure très importantes, des rechappages aux endroits où on accède dans ce bâtiment. Donc, on y circulait beaucoup, à la fois dans les travées, dans le préau, et également dans la cour. Alors, dans la cour, on a aussi des petits poteaux qui laissent à penser qu'on a peut-être des aménagements, des fils peut-être, des petits poteaux qui délimitent à l'espace, mais on ne peut pas en dire beaucoup plus sur la circulation à l'intérieur de la cour elle-même, qui était peut-être ouverte.
Ce bâtiment, ce n'est pas la maison d'un riche aristocrate gaulois, voire même du Vergobret. Vous pensez que nous sommes sur une sorte de bâtiment public ? Mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce que cela peut être ?
On penche pour un bâtiment public, déjà, quand on regarde l'investissement collectif pour l'édifier, tous ces bois, 110 bois qui sont des chaînes, qu'il a fallu faire monter d'assez loin, donc, déjà, c'est un gros investissement, mais surtout parce qu'on n'a sur cet espace aucune fosse dépotoir, aucun élément domestique qui sont habituels dans n'importe quelle maison. On n'a pas de cave, on n'a rien du tout, on a un sol, c'est quadriportique et c'est tout. Et puis surtout, sur ce sol, on a uniquement des monnaies perdues, donc on voit qu'il y a des échanges collectifs assez importants, une porte assez étroite. Voilà, c'est un petit peu les seuls indices que l'on a pour caractériser l'espace. À part imaginer qu'il a été construit par la collectivité pour la collectivité, les pistes sont vastes et sont nombreuses. Et en plus, on a l'impression que durant la vie de ce bâtiment, sur les 50 ans dans lesquels il a marqué la topographie de Bibracte, il y a peut-être eu une évolution aussi dans la fonction de ce bâtiment. On a l'impression d'un bâtiment, on va dire, un peu plus polyvalent au départ, peu connoté avec ces espaces vastes de rassemblement. Et puis dans la dernière phase, donc autour de 10-5 avant Jésus-Christ, On a des éléments assez étonnants, beaucoup de monnaie entaillée, des quelques petites armes qui sont concentrées sur le bâtiment central, parce qu'il y a un bâtiment central dans le dernier état, et on imagine que peut-être il y a une évolution vers une fonction cultuelle un petit peu plus lisible, un peu plus importante.
Comment s'intègre-t-il dans la cité ?
Ce bâtiment est intégré dès le départ dans un système de voirie, puisque tout autour de notre terrasse, on a pu mettre en évidence des rues, mises en place au même moment que la terrasse, donc autour de 60-50 avant Jésus-Christ, des rues d'environ 7 à 8 mètres de large, très bien organisées avec un caniveau central. Et ces rues sont la marque finalement d'une volonté un petit peu commune à ce qu'on observe partout dans Bibaract à ce moment-là, une volonté de noyauter, de structurer l'espace urbain en délimitant des îlots. Alors, des îlots qui ne sont pas, comme on l'imagine, dans la capitale de cité gallo-romaine orthonormée, des îlots qui sont avant tout une volonté de lotir pas à pas, mais régulièrement, un espace topographiquement complexe.
Est-ce que l'on connaît d'autres bâtiments publics de la sorte dans d'autres cités gauloises ?
Au sens bâtiment de rassemblement de grande surface, on en connaît par exemple à Coran, mais là c'est purement un sanctuaire quand je parle de Coran. On en connaît également en Bretagne, on en connaît également dans la Somme, dans des agglomérations ouvertes, et non pas dans des capitales de cités fortifiées comme Bibracte. Donc on voit que ce serait plutôt un espèce de kit architectural qui peut être utilisé dans le domaine culturel, mais aussi, pourquoi pas, dans le domaine économique ou religieux. Donc un monument public qui permette d'accueillir beaucoup de gens, et puis on va s'arrêter là malheureusement, puisqu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin.
Alors en vous écoutant, moi je rêve. On sait bien sûr que toute cité gauloise est gérée par un Sénat. Est-ce que l'on ne pourrait pas être justement sur l'Assemblée des sénateurs ?
Tout à fait, on peut imaginer que ce lieu de rassemblement pouvait avoir une fonction politique, sachant qu'à la même période, on construit à moins de 300 mètres de là ce que les archéologues de Bibracte appellent le forum, qu'on peut appeler aussi le quartier monumental du couvent, où on connaît un grand édifice basilical qui ne présente aucun élément domestique, donc on suppose que c'est un proto-forum, même si d'autres antiquisants n'apprécient pas ce terme, en tout cas un espace public qui, lui, est adapté à la réunion de ce que l'on sait exister, c'est-à-dire le Sénat des Édouins. D'ailleurs, le corps législatif qui décide de la destinée de ce grand territoire qui couvre à peu près le nord de la Bourgogne et le sud de la Champagne.
Donc, un bâtiment énigmatique, un forum, tout ça, bien sûr, sont des édifices publics, peut-être aussi des grandes places, et puis cette fameuse fontaine.
Oui, donc on voit que l'aménagement urbain de la ville n'est pas nul, il est au contraire extrêmement dense, avec des espaces publics, j'en ai cité deux. On peut rajouter aussi des espaces, on va dire, à connotation utilitaire, tels que l'assainissement, les bassins, l'adduction d'eau. Mais on voit qu'il n'y a pas de politique architecturale unique, il y a une politique empirique de lotissement de la ville. Par contre, on voit que les éléments qui sont les plus importants, qui se mettent en place le plus rapidement, sont essentiellement les espaces privés, ces fameuses domus. N'oublions pas que la domus de PC1, qui est au centre de la ville, est la plus ancienne des Gaules, la plus étendue et celle qui répond le plus exactement au modèle campanien. Donc on voit que finalement, le processus d'urbanisation de cet espace, il est à la fois collectif, mais il est également fondamental de comprendre qu'il est impulsé par les identités, par ces grands membres du Sénat, entre autres, dont on voit la preuve à travers la mise en place de ces villes. Et justement, je pense que c'est un élément fondamental de voir le parallèle entre la mise en place de ce forum, de ces bâtiments publics et de la domus, parce qu'on voit que c'est le moment où finalement les élites ont besoin de rentrer dans la ville. On sait parfaitement que jusqu'à cette date-là, ils sont dans leur grande villa de campagne, ces Gaulois, dans leur grande ferme. Et le moment où apparaît ce forum, c'est le moment où apparaissent également ces grandes maisons urbaines de l'aristocratie. Donc Bibracte devient le chef-lieu des Édouins à ce moment-là. Ce qui en est la preuve, c'est certes ces bâtiments publics, mais surtout le fait que dans cette ville et dans aucune autre des Édouins, on va retrouver l'habitat de ces très grandes élites.
En tout cas, on le sait, on a lu les textes. Les Éduins sont par essence très très romanisés, bien plus romanisés que les autres.
Non, parce que le phénomène est similaire chez les Séquanes ou chez les Lingons. Chez les Lingons, d'ailleurs, on en parle beaucoup moins parce que, malheureusement, ils ont eu moins de place dans le texte de César, vu qu'ils ont toujours été alliés. On ne parle pas de ses alliés, on parle de ses bons ou mauvais ennemis ou amis. Les Lingons, les nombreux éléments qu'on peut voir dans la romanisation des espaces ruraux, des fermes, mais surtout de leur capitale de cité, Langres, montrent des phénomènes similaires en quantité, en qualité et en chronologie.
La ville gauloise est-elle une cité religieuse ?
Il faut évidemment préciser ce qu'on entend par cité. Les antiquisants, évidemment, différencient la cité qui est l'espace collectif, c'est-à-dire le territoire, la nation, et la capitale de cité qui est le cœur de cette nation. Alors, plus généralement, parlons, est-ce que la ville gauloise est un espace religieux ? Bien sûr, tout est religieux, comme ont cité d'autres des grands scientifiques. Ce qui est paradoxal à Bibracte, c'est que on n'a pas retrouvé pour l'instant d'espace religieux à part entière, caractérisé. Alors que franchement, s'il y a des choses qu'on fouille beaucoup en France aujourd'hui, c'est les sanctuaires gaulois ou romains. Eh bien, mon université, on a fouillé une quantité, enfin 5 ou 6, donc on sait ce que c'est. Et à Bibracte, on n'en trouve pas. Alors, on pourrait dire, ah, peut-être que sous la forêt, il en sommeille un. Sauf qu'on a fait des prospections géophysiques systématiques, que les équipes allemandes ont fait des prospections de manière variée, détecteurs à métaux, etc. Et les indices qui permettraient d'identifier ces sanctuaires n'existent pas autour de Bibracte et dans sa périphérie extrêmement proche. Donc, il y a un certain paradoxe ici. Alors, je ne dis pas que PC15 n'a pas eu à un moment une fonction religieuse, qu'il y a d'autres bâtiments qui n'ont pas une fonction religieuse. Mais un sanctuaire à part entière, on n'en connaît pas encore dans la ville ou dans sa périphérie.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Pierre Nouvel, est-ce que l'on peut voir l'évolution du territoire de Bibracte ?
Quand on parle du territoire de Bibracte, le terme, à mon avis, n'est pas tout à fait adapté dans le sens où on ne sait pas quelle était l'aire véritablement qui était contrôlée économiquement, politiquement, socialement par les habitants de cette ville. Par contre, on peut parler du territoire, à ce moment-là, éduin, au sens politique, ou alors du territoire naturel, du Morvan ou de ses périphéries. Pour cela, évidemment, on a plein de programmes également qui sont mis en place de prospection, prospection terrestre, prospection aérienne, qui ont permis de remettre en cause un grand nombre de croyances, d'a priori, en particulier qui est de confirmer que la densité du peuplement est extrêmement forte, évidemment, à l'époque de Bibracte, antérieurement, mais surtout postérieurement à Bibracte. On a énormément de fermes, de nécropoles qui apparaissent dans ces prospections. On a également un grand nombre d'agglomérations qui sont reconnues autour de Bibracte. Donc Bibracte n'est pas isolé, on n'est pas au milieu de la forêt, on est même pas au milieu des champs, on est dans un espace vraiment humanisé, probablement aussi densément occupé, je dis pas en termes de densité de population, mais en densité de points de peuplement, qu'aujourd'hui. Beaucoup de fermes, beaucoup de petites agglomérations.
Est-ce que l'on aurait, j'y vais fort, des villes antérieures à Bibracte dans cette région ?
Pour l'essentiel, elles sont antérieures à Bibracte, puisque Bibracte est une ville tardive, sinon très tardive pour l'urbanisation gauloise. Alors, sans parler d'Autun, qui pose véritablement problème, puisque les fouilles actuelles de Philippe Barlet et de Martine Joly démontrent qu'il y a certainement quelque chose avant Bibracte à Autun, mais on connaît un grand nombre d'agglomérations du territoire éduin. Je pense à Auxerre, je pense à Chalon-sur-Saône, je pense à Decize, sans en oubliant beaucoup d'autres, qui sont largement antérieures à Bibracte, qui remontent au IIe siècle, sinon au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On a un phénomène similaire dans cette région à ce qu'on trouve en Europe centrale ou dans le reste de la Gaule, c'est-à-dire que des agglomérations ouvertes sont mettre en place au grand carrefour de fleuves, et dans ces zones-là apparaissent ces grandes villes qui vont donner naissance plus ou moins à la structure du peuplement du début de l'époque romaine. Bibracte n'est pas dans ce cadre-là. Il est un peu à part, puisque il n'y a ici rien qui soit antérieur à la fin du IIe siècle avant Jésus-Christ. C'est une ville champignon récente pour le paysage urbain de cette région.
La découverte de ces villes ouvertes et anciennes est quelque chose de très nouveau. Ça fait quelques années seulement qu'on en a conscience chez les archéologues.
Oui, ça fait, on va dire, une quinzaine d'années. Depuis le début des années 2000, que en Europe centrale, tout d'abord, en Tchéquie, puis en Allemagne du Sud, puis en France, on s'est aperçu qu'avant cette strate des oppidas, qui avait été tant magnifié par les grands chercheurs tels que Bulieu ou Deschlet, eh bien cette strate elle a été précédée par une phase d'urbanisation ouverte extrêmement dense, extrêmement intense, dynamique, qui couvrait toute l'Europe moyenne. Et finalement, le phénomène des oppidas, qu'on pourrait traduire par le terme d'encastellement, de fortification de ces agglomérations, de ce réseau d'agglomérations, il apparaît tardif quelque part à la fin du IIe siècle avant notre ère. Il y a beaucoup de recherches actuellement sur ces questions, et on sait que les agglomérations ouvertes peuvent se fortifier sur place. On a le cas de Besançon, par exemple, qui est très bien connu, mais on a aussi le cas assez rare de création de nouvelles entités urbaines directement fortifiées, et Bibracte est dans ce cas.
Peut-on voir l'évolution donc à l'intérieur de Bibracte de son urbanisme ? Vous en arrivez, vu le nombre d'années de fouilles, vous arrivez donc désormais à comprendre cet urbanisme ?
Alors ne soyons pas présomptueux, depuis Bulieu, ça fait un peu plus de 120 ans, 130 ans que les fouilles ont lieu, on a dû fouiller au maximum 3 à 4% de la ville. Et les questions les plus pendantes sont celles qui concernent les premiers pas de Bibracte. On reste partagé sur cette question de la création de Bibracte, de la date exacte de la création de Bibracte, des éléments qu'il y avait avant Bibracte. Ce qu'on peut dire, c'est que il y a a priori un mouvement, on va dire, d'amplification de l'urbanisation contemporain de la guerre des Gaules. Certains disent un petit peu antérieur, d'autres disent un petit peu postérieur. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a deux Bibractes. Il y a une première phase de Bibracte, dans la première partie du 1er siècle avant notre ère, où la ville est, semble-t-il, peu densément occupée. En tout cas, seulement le long d'un axe central. Et puis, un deuxième Bibracte, dans la seconde partie du 1er siècle avant Jésus-Christ, où la ville est entièrement occupée, densément occupée, par ses bâtiments, bâtiments publics, bâtiments privés. Donc, on ne peut pas lier ça, évidemment, à la grande histoire. Mais on voit un phénomène d'accaparement par les élites, par les Édouins de cette ville qui décident d'en faire leur capitale. Et c'est visible dans la stratigraphie et dans l'évolution topographique de la ville.
Pierre Nouvel, Bibracte est une ville romanisée, avec ses élites. Pour autant, elle va dépérir, disparaître ?
Ça, c'est certainement l'une des questions qui est les mieux connues, en tout cas les mieux perçues de l'histoire de Bibracte. Autant ses débuts restent un petit peu perdus dans les limbes des fonds de stratigraphie, autant l'abandon de Bibracte est un phénomène qui est visible partout, dans tous les chantiers, et depuis le 19e siècle. Alors jusqu'aux années 2000, 90 on va dire, on s'était imaginé, dans une vision très romanisée, très romaniste et centraliste du monde romain, que le conquérant avait dit aux Édouins, bah, maintenant vous changez de coin, vous ne restez pas sur une montagne qui peut être défendue, vous allez dans la plaine. Or, ce phénomène, il est en réalité beaucoup plus complexe et surtout beaucoup plus généralisé à l'échelle des Gaules. On s'est aperçu que toutes les capitales de cité étaient plus ou moins fondées ou refondées autour de moins 5 avant Jésus-Christ. Que ce soit chez les Édouins, qui sont un peuple fédéré allié des Romains, que ce soit chez des peuples qui étaient ennemis des Romains, tels les Sénons ou les Séquanes, on observe le même phénomène au même moment. Donc il y a à la fois un phénomène global, mais aussi des phénomènes individuels. Généralement, les Gaulois préfèrent rester sur leur capitale de cité, ça fait moins de travaux. Et pourtant, Bibracte, c'est un unicum, puisque là, la capitale de cité, qui a été romanisée, où de très grands efforts avaient été faits, des très grands investissements avaient été faits, eh bien, est abandonnée au moment où, en plein milieu du gué, en quelque sorte. Alors comment l'expliquer ? Probablement que c'est une conjonction de phénomènes. Le premier est la mise en place probablement de grands axes routiers, le réseau d'Agrippa, qui ne permet pas de monter sur la capitale de cité qu'était Bibracte. Mais surtout, le principal élément, à mon avis, c'est justement que cette société des Édouins est ultra-romanisée, qu'elle se considère comme romaine, et elle n'accepte plus d'avoir une ville qui soit sur une montagne, qui soit connotée un petit peu proto-historique. Ça se voit dans la topographie urbaine, puisque la trame urbaine est liée à la topographie. Toutes les capitales de cité qui sont fondées à ce moment-là ont une trame urbaine orthonormée, créé de toutes pièces à ce moment-là. Donc c'était pas possible à Bibracte puisque la topographie est trop mouvante. L'autre élément, c'est certainement aussi des questions économiques. Monter toutes ces pierres, monter tous ces matériaux, arriver avec tous les matériaux transformés ou à transformer sur la capitale de cité, certainement ça devenait trop complexe et ingérable. Donc le choix a probablement été fait de manière collective ou concertée avec le monde romain de la déplacer en direction d'Autun, là où passait la grande voie d'Agrippa qui reliait Lyon à l'océan.
Moi je pense que c'est les élites qui ont décidé.
Nécessairement, puisque, comme dans toute société, c'est le pouvoir législatif qui décide des lois. Or, le pouvoir législatif, on le sait, c'est le Sénat qui est peuplé, comme le dit César, par les grandes élites des Édouins. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que, justement, les derniers éléments à avoir été abandonnés à Bibracte, la fouille l'a démontré, c'est justement PC1, la grande maison urbaine, où on a l'impression que, finalement, on a attendu que tout le monde s'en aille pour déménager les derniers meubles de la maison qui semble abandonnée seulement autour du changement d'air, voire peut-être juste après.
Bibracte, pour finir, ce serait une exception qui confirmerait la règle. Bibracte, une sorte d'étoile filante dans la proto-histoire française.
Alors c'est l'opinion qui se fait de plus en plus jour aujourd'hui, c'est-à-dire que on a l'impression que cette agglomération qui était considérée comme le reflet exact de ce que l'on pouvait percevoir de la ville gauloise ou de la romanisation des réseaux urbains, on s'aperçoit qu'elle est en réalité une exception, puisque elle n'est pas fondée comme toutes les autres à la taille moyenne, mais plus tardivement, qu'elle est sur une hauteur, alors que la plupart des agglomérations gauloises sont avant tout en plaine, qu'elle est fortifiée, alors que les autres au départ ne le sont pas, que cette ville va être abandonnée, alors que la plupart des villes gauloises vont donner naissance à des villes d'époque romaine, donc ça signifie bien que cette ville, elle est avant tout particulière. Alors est-elle particulière pour des raisons topographiques ? Elle est trop importante, sur une butte trop élevée, on a plus de 800 mètres d'altitude, de Pontarlier quand même, hein. Donc ça va avoir des conséquences quand on est en toge et en sandales. Ou est-ce que c'est parce que justement la population dont elle était la capitale était particulièrement romanisée et particulièrement attachée à ces notions de romanité, on ne peut pas en juger. Mais en tout cas, c'est bien une exception dans l'évolution urbaine des Gaules.
Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Benjamin Vignal et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, le magazine d'archéologie de France Culture se consacrera à 40 ans de préhistoire ancienne en France.